n'est pas les plus simples et je pense particulièrement à un accident dont j'ai été témoin il y a peu de temps de ça. J'étais un peu moins intéressé de cet accident, j'ai voulu tourner sur la bonne personne. Et au moment où j'étais là-bas, juste avant que je vais faire une conférence similaire sur Internet de 400 mètres, un accident a eu lieu dans une voiture qui voulait à l'allure à partir de louper dans le garage, qui était en cassé dans une espèce de rembarre à l'intérieur. Somme toute, j'étais à l'intérieur, il y avait vraiment touché le moteur.
Le bas-côté et les occupants de la voiture, pour certains, avaient été éjectés, d'autres étaient restés encastrés dedans, ils étaient tous morts, et on s'était rendu compte après l'autopsie qu'ils étaient consommateurs de cannabis. Et à vrai dire, la question qui revient toujours, et quand on était dans cette ville à ce moment-là, c'était, mais pourquoi est-ce qu'il y a des choses comme cela qui se passent si votre Dieu existe ? Systématiquement, lorsque nous sommes confrontés à des gens avec lesquels on parle et on partage notre foi, systématiquement c'est une question qui revient. Si Dieu existe, pourquoi toutes ces guerres ? Si Dieu existe, pourquoi tous ces morts ? Et je crois que l'idée de Dieu nous confronte finalement avec l'idée de la souffrance. Comment concevoir l'existence de Dieu et en même temps voir de nos yeux la souffrance de notre monde ? C'est quelque chose qui paraît quelquefois tellement inconciliable. Si Dieu existe, pourquoi la souffrance et la mort ? Il y a un homme qui est décrit dans les textes bibliques qu'on appelle Job, et cet homme avait une situation assez admirable. Il était un homme qui était selon le cœur de Dieu. Dieu prenait plaisir en lui, dans les textes bibliques. Et cet homme était un homme riche en troupeaux, en cheptel, il avait plusieurs enfants. Et soudainement, par un concours de circonstances dont Dieu n'est pas étranger, bien sûr, mais qui n'est pas issu directement de Dieu, on voit qu'il va être attaqué tout d'abord dans sa famille, la mort de ses fils, la détresse de sa femme, ses champs et ses biens qui vont être complètement perdus, et très rapidement, il va être également attaqué dans son corps. Et ce Job va s'asseoir et va se mettre dans la poussière et va commencer à se gratter la peau avec un tesson de bouteille. On pense qu'il avait une forme soit d'eczéma très fort ou de problème de peau qui l'affectait profondément. Et pendant quelques jours, il reste seul, puis des amis viennent le rejoindre de plusieurs régions, s'assoient avec lui dans la poussière. Et ce qui me frappe justement, c'est que pendant 7 jours, ses amis vont se taire. Vous savez, parfois on se cogne la tête, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on se tape avec un marteau sur le doigt, on a la douleur qui nous lance, et je crois que la dernière envie dans des moments comme ça, c'est d'avoir des gens qui viennent nous dire « Eh, ça va, ça va, ça va ?» Les amis de Job s'assoient à côté de lui, ne disent pas un mot, et l'écoute pendant 7 jours. Et après ces 7 jours, un dialogue s'instaure entre ces 4 personnages, il y en a un 5e qui parlera plus tard, ils vont se parler entre eux, et ils vont avoir toute une série de dialogues sur la souffrance, et au 5e chapitre, au verset 7, on a ce magnifique verset qui dit « L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. » Quoi donc ? Est-ce que la souffrance ferait donc partie du propre de l'homme ? Est-ce que ça serait vraiment impossible que d'être humain sans souffrir ? J'aimerais relever 3 pensées sur cette souffrance humaine, 3 pensées qui nous permettront peut-être ce soir d'y voir plus clair et d'essayer de répondre à cette question. Si Dieu existe, pourquoi la souffrance et la mort ? La première pensée que j'aimerais relever, c'est que la souffrance enveloppe le monde entier. La souffrance enveloppe le monde entier. Et à vrai dire, qui d'entre nous, qui ce soir, n'est pas concerné par la souffrance ? Et quand on parle de souffrance, eh bien, je crois qu'on peut relever 2 grands types de souffrance. Il y a d'abord cette souffrance aiguë, cette souffrance visible, cette souffrance finalement qui se voit comme à l'œil nu, c'est votre voisine de palier qui n'a plus ses cheveux à cause de sa chimiothérapie, l'épicier en bas qui s'est fait braquer son commerce et à qui on a volé son argent, c'est les guerres et les meurtres que vous voyez et sur lesquels vous assistez en Égypte, c'est la situation que vous constatez tous les jours dans les journaux en Syrie, ce sont les famines avec ces enfants en Afrique subsaharienne qui en ont le ventre gonflé tellement ils mangent mal ou tellement ils mangent peu. Vous avez ces intoxications en série en Inde qui ont eu lieu il y a quelques mois avec 20 enfants qui meurent. Je regardais l'autre jour une série de photos qui sont les 20 photos qui ont marqué le 20e siècle. Vous en avez une qui vous glace le sang. Vous voyez un petit enfant africain en train de mourir, une petite fille. recroquevillée sur elle-même, complètement rachitique, et à côté un vautour qui attend pour voir quand est-ce qu'elle mourra et quand est-ce qu'elle pourra le manger. Mais comment est-ce que dans un monde dans lequel que Dieu aurait créé, comment est-ce que la souffrance de telle sorte peut exister? Une souffrance aiguë et visible. Mais c'est également parfois une souffrance qui est plus insidieuse, plus silencieuse, plus sourde. La maladie qu'on ne voit pas et que vous n'exprimez pas forcément à haute voix, le divorce, la perte d'un être cher, un enfant, un fils ou une fille qui prend une voix que les parents n'approuvent pas. Toutes ces choses sont une souffrance silencieuse et sourde. Alors je pourrais dire que celui qui ne souffre pas lève la main, je me doute bien que tout le monde parmi vous souffre ce soir, et c'est sûrement pour cela que ce thème vous amène jusqu'ici, mais tout le monde souffre dans ce bas monde. La souffrance est universelle, la souffrance est partout, c'est un constat. Ouvrons les yeux et voyons, nous souffrons, et nous pouvons conjuguer ce verbe à tous les temps de l'indicatif, à tous les modes, il n'y a aucun problème là-dessus, tout le monde souffre, c'est un constat qu'on fait comme à l'œil nu. Maintenant, quelle est l'origine de cette souffrance ? Et à vrai dire, quand je discute dans la rue avec les gens que je rencontre et qu'on parle de Dieu et que cette idée de souffrance est mise sur le tapis, généralement, la grande question c'est, mais finalement, d'où ça vient? Il faut avouer une chose, c'est que le monde séculier, le monde sans Dieu, le monde qui refuse l'existence de Dieu, n'a pas vraiment d'existence, n'a pas vraiment d'explication sur l'existence de la souffrance et de la mort. Pourquoi la mort, généralement, on va vous répondre, elle vient parce que ça existe. Elle est là et c'est tout. Pourquoi ? Quel est le sens de la mort ? Quel est le sens de la souffrance ? D'où viennent ces choses ? Pourquoi est-ce qu'on le voit comme à l'œil nu ? Mais voici que la Bible nous donne une raison. Une raison qui est à la fois centrale et une raison qui est en même temps fondamentale, qui est issue d'un texte fondateur, finalement, de toute religion monothéiste, mais qui est particulièrement explicité et développé dans le texte biblique. C'est le récit de la création et de la chute. Et ce récit nous dit en substance que Dieu, qui est parfait, qui est absolument saint, c'est-à-dire sans défaut en lui, la perfection absolue, ce Dieu-là a créé les cieux et la terre. Et en les créant, il les a créés absolument parfaits parce qu'il est lui-même parfait. Par conséquent, étant parfait, tout ce qu'il crée est parfait. Il a créé ce monde parfait, mais il a créé aussi, au milieu de ce monde, un homme et une femme pour gérer ce monde, le diriger, en être en quelque sorte le gérant, et il les a créés parfaitement libres, en leur laissant un choix absolu entre le bien et le mal. Et en leur disant, vous voyez ce fruit qui se trouve au centre du jardin dont je vous donne la garde, cet arbre-là, cet arbre qui contient des fruits, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je vous avertis, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Vous êtes parfait, vous ne faites que le bien, vous êtes absolument parfait, mais le jour où vous mangerez de cet arbre, vous mourrez. Et la suite du récit nous montre que, tentée par le serpent, le diable, Ève va manger de ce fruit, son mari étant à côté, ce qui ne laisse aucune excuse du style « c'est ma femme ». On connaît la chanson, hein, c'est une phrase qui se répète depuis la création dès lors. Mais il est juste à côté, il la laisse faire, il en mange lui-même. Et à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrent, ils se rendent compte de leur nudité, de leur totale séparation avec Dieu, et c'est le point de départ de l'entrée de la souffrance et de la mort dans le monde. Parce que la Bible nous dit, par une seule désobéissance, par un seul péché, le péché, la désobéissance est rentrée dans le monde, et par cette désobéissance, par ce péché, la mort, et ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont été coupables de la même désobéissance, tous ont péché. Et c'est pourquoi ailleurs la Bible dit, tous meurent en Adam. Adam, le premier homme, a mangé de ce fruit, et toute l'humanité, toute la création s'est couchée avec lui. De même qu'un général, lorsqu'il capitule, il entraîne toute son armée dans sa capitulation. Adam, en chutant, nous dit le récit biblique, a entraîné toute la création avec lui. Et c'est pour cela que vous voyez comme à l'œil nu les guerres, les cataclysmes, les tremblements de terre, la maladie, les choses qui nous frappent et finalement, ultimement, la mort qui guette tout homme. Et si vous voulez une statistique viable ce soir, laissez-moi vous en donner une. C'est que 100% des hommes et des femmes qui sont dans cette salle, et même ceux qui sont dehors, un jour vont mourir. Vous allez mourir, je vais mourir, nous allons tous mourir. Et la raison est très simple. C'est parce que notre premier père a péché. Telle est l'explication que le récit biblique nous donne. Par un seul homme, le péché, la désobéissance est rentrée dans le monde. Et par le péché, la mort. C'est pourquoi aujourd'hui, la souffrance enveloppe donc le monde entier. La souffrance nous touche tous. La deuxième pensée que j'aimerais relever ce soir sur ce thème de la souffrance et de la mort, c'est que cette souffrance et cette mort nous adressent un message. Cette souffrance et cette mort nous adressent un message. Et je vais encore vous citer un verset de Job qui dit la chose suivante. Dieu délivre le malheureux de son malheur et c'est par la souffrance qu'il lui parle. C'est par la souffrance qu'il lui parle. Peut-être ça vous paraît paradoxal, mais la souffrance est le moyen par lequel Dieu parle. Laissez-moi illustrer mon propos. Nous sommes un pays dans lequel nous avons une grande histoire de lutte des classes, de revendications sociales, et je pense que nous sommes un des pays où la tradition de faire des grèves est la plus ancrée, de sorte que nous sommes probablement, nous, les Français, le peuple utilisant le plus un objet qu'on appelle le mégaphone. Le mégaphone est un objet qui permet d'amplifier la voix sans avoir recours à une prise de courant, juste avec des piles. C'est un objet extraordinaire, vous le voyez dans toutes les manifestations, et si je veux me focaliser sur cet objet, c'est que cet objet vous permet de parler d'une manière qui soit absolument audible pour toutes les personnes qui se trouvent parfois à plus de 100 mètres. Vous en avez des modèles qui vont parler beaucoup plus fort que d'autres, d'autres qui vont parler beaucoup moins fort que d'autres. Mais ce que je voudrais vous dire maintenant, c'est que, comme l'a dit C.S. Lewis, la souffrance est le mégaphone de Dieu par lequel il parle à un monde engourdi. La souffrance est le mégaphone de Dieu par lequel il parle à un monde engourdi. Ce que je suis en train de vous dire, chers amis, c'est que si vous êtes rassemblés ce soir, c'est pour assister à une conférence qui a trait sur la relation qui existe entre la personne de Dieu et la souffrance. Mais est-ce que seulement vous vous seriez intéressé à ce thème si la souffrance ne vous avait pas parlé d'une manière personnelle sur ce thème ? La souffrance est le mégaphone de Dieu par lequel il parle à un monde engourdi. Si vous avez un conjoint, si vous avez un enfant, si vous avez un voisin qui dort trop et que vous avez besoin de le réveiller, que le secouer ne suffit pas, que lui parler doucement à l'oreille ne suffit pas, prenez un mégaphone, vous allez voir, ça va marcher. Par conséquent, si vous êtes engourdi, si vous dormez dans ce monde, si le Dieu qui l'a créé vous cherche et veut que vous le regardiez, il a toutes les raisons du monde à utiliser lui aussi un mégaphone, et ce mégaphone, c'est la souffrance. Mais la question c'est, qu'est-ce que cette souffrance veut dire exactement ? Qu'est-ce qu'elle veut nous communiquer comme message ? Je crois que le premier message qu'elle veut nous communiquer, c'est que la vie est courte. La vie est courte. Et elle a une fin. Je vous ai rappelé il y a quelques instants cette statistique que vous ne pourrez pas esquiver. 100% des hommes et des femmes dans cette salle vont souffrir. 100% des hommes et des femmes vont mourir. Et la grande majorité des hommes et des femmes déploient tous leurs efforts pour ne pas y penser. Blaise Pascal a dit cette phrase vraiment merveilleuse. L'homme, ne pouvant vaincre la mort, s'est efforcé de ne plus y penser. Oh, tout juste! Pouvez-vous peut-être jongler avec la fin de votre vie ? Que pourrais-je vous comparer avec ces choses-là ? Une allumette peut-être ? Si vous prenez une boîte d'allumettes et que vous la craquez, vous pourrez la prolonger de quelques instants avant peut-être de vous brûler les doigts. Mais ça sera inexorable. Vous ne pourrez pas esquiver cette échéance. La vie est courte, elle a une fin, à commencer par la nôtre, par la vôtre. La souffrance et la mort peuvent intervenir à tout moment. Mon ami Michael a donné quelques éléments de mon témoignage. Je ne vais pas vous raconter mon témoignage ce soir. Pourtant, raconter ma vie, c'est pourtant ce que je fais de mieux. Mais j'avais deux amis quand j'étais jeune. L'un s'appelait Karunga, il était malien. L'autre s'appelait Alexandre. Le premier est mort, il avait 17 ans. Il s'est suicidé en sautant du quatrième étage de sa chambre. Le deuxième, Alexandre, est mort d'une overdose quand il avait 21 ans. C'était un beau gosse, un métis, une force de la nature. On le pensait invincible. Ça ne l'a pas empêché. Il a laissé sa vie. La souffrance et la mort peuvent intervenir à tout moment. Peut-être avez-vous perdu un proche. Peut-être avez-vous perdu un ami. Peut-être votre conjoint est-il en train de se débattre dans les affres de la mort. Elle peut intervenir à tout moment. Savez-vous que vous pourriez quitter cette salle, chers amis, traverser la rue, vous faire faucher par une voiture, et ainsi votre allumette s'éteindra, et vos doigts auront brûlé plus tôt que prévu. Prenons garde, la souffrance et la mort peuvent intervenir à tout moment. Elle nous rappelle également, cette souffrance, le témoignage de notre corruption. Les années passent, nos corps sont frappés par la vieillesse. J'ai 34 ans, j'ai moins de cheveux que quand j'en avais 20. Et les choses peuvent encore évoluer. Pour moi, vous savez très bien quand vous regardez vos photos de quand vous étiez jeune, que vos corps ont changé. Il arrive un moment où les années qui passent, les rides qui se creusent, toutes ces choses-là nous rappellent que inexorablement notre condition se rapproche invariablement de la fin de notre vie, de cette mort qui nous frappera tous, sans compter toutes ces souffrances morales qui nous enveloppent, ces difficultés et ces amertumes de plus en plus marquées. Plus la vie avance, plus nous avons du mal à vivre en paix les uns avec les autres, plus les situations deviennent tendues, plus finalement la marque de ce qui a constitué la désobéissance de notre premier père vient nous affecter au quotidien. Chers amis, la souffrance est une proclamation. Il proclame, elle proclame, que ce monde ne peut pas nous satisfaire tel qu'il est. Êtes-vous insatisfait dans ce monde ? Mais on est tous insatisfaits dans ce monde. Il manque quelque chose. Il y a une pièce du puzzle qui ne va pas. Ce monde ne peut pas vous satisfaire. Ça reviendrait à boire dans un verre qui serait vide. Est-ce que vous croyez que vous pourrez être rassasié de la sorte ? Ce monde-là n'est pas fait pour vous satisfaire. Vous n'y avez pas votre place, autrement vous vivriez éternellement. C'est pas logique. Il manque quelque chose. Ce monde ne peut pas vous satisfaire tel qu'il est. Il est logique que vous cherchiez quelque chose d'autre. Et la souffrance qui vous aiguillonne est une proclamation de ce que ce monde ne peut pas être ce qui sera votre demeure éternelle. La souffrance vous rappelle ces choses-là. Et Dieu a toujours en vue pour l'homme quelque chose de meilleur que ce que nous voyons. Il a mis notre premier père, Adam, dans un jardin pour avoir une relation avec lui et pour qu'il vive dans cette relation éternellement, dans une bonté et une joie parfaite. Aujourd'hui encore, la souffrance, paradoxalement, nous rappelle que Dieu a toujours un plan d'amour pour ceux qui se confient en lui et qu'il veut avoir même une situation meilleure pour ceux qui se confient en lui. La souffrance, c'est un rappel que Dieu a ce plan merveilleux pour ceux qui se confient en lui, qui n'a rien à voir avec la meilleure des meilleures expériences que vous pouvez expérimenter dans ce bas monde. Pensez simplement à la plus belle des expériences que vous avez faites dans ce monde, celle qui vous a procuré le plus de plaisir. Multipliez-la par 1 milliard, vous n'aurez pas un quart du tiers de l'infini du plaisir que vous expérimenterez au ciel si vous allez au ciel. Sur cette terre, vous pouvez à la fois goûter, partiellement, au bonheur. Et vous goûterez, également partiellement et imparfaitement, aux souffrances. Finalement, c'est un mix, cette vie. Un peu de bonheur, un peu de souffrance. La souffrance qui proclame que c'est pas ici le vrai bonheur parfait, et le bonheur qui est comme un teaser, une bande-annonce, un avant-goût de ce que pourrait être la vie d'après. La grande question, c'est qu'est-ce que vous désireriez expérimenter parfaitement, pleinement et éternellement ? La souffrance et la mort vous adressent un message. Et ce message, c'est que Dieu a un plan merveilleux pour ceux qui se confient en lui. Êtes-vous de ces gens-là ? Es-tu de ces gens-là ? Le troisième et dernier commentaire que j'aimerais faire sur le verset initial que nous avons lu, et sur ce thème, ce dernier commentaire, c'est que tu peux être délivré de la souffrance et de la mort. Tu peux être délivré de la souffrance, et j'insiste, de la mort. Nous avons dit que l'origine de la souffrance et de la mort, c'est le péché, c'est tout ce qui est contraire à la personne et à la moralité de Dieu. Comment dès lors pouvons-nous prendre plaisir dans l'objet même qui est la source de notre souffrance, de notre malheur et de notre mort ? Je pense à cette dame que j'ai vue mourir de mes yeux, qui était une voisine quand j'étais jeune. Parce que je suis vieux, n'est-ce pas ? Cette voisine était atteinte d'un cancer des poumons. Elle a fait de la chimiothérapie, elle a perdu tous ses cheveux. Et je la voyais assise sur son perron, en train de fumer cigarette sur cigarette, en pleine chimio. 2 mois après, elle est morte. Elle ne pouvait tout simplement pas se dépatouiller de ce qui lui avait donné tant de plaisir et qui s'avérait maintenant un objet de mort. La nuit de mes plaisirs, dit la parole, est devenue une nuit d'épouvante. Quand tu te retrouves englué dans la propre chose qui te semblait te donner de la satisfaction, tu te rends compte que ces choses-là étaient finalement un piège. C'est comme une mouche qui vient s'accrocher à son piège anti-mouche. Oh, comme c'est bon et comme c'est sucré, mais quand il faut s'en décoller, c'est plus possible. Et finalement, la mort est assurée. Si vous ne réglez pas dans cette vie la question de votre péché, vous ne réglerez pas la question de la mort éternelle et de la souffrance éternelle. Vous ne pourrez pas régler la question de la souffrance si vous ne réglez pas dans cette vie, premièrement, ce qui a été la cause de votre souffrance, à savoir le péché. La bonne nouvelle, c'est que Dieu se soucie de votre souffrance. La bonne nouvelle, c'est qu'il connaît chaque aspect de votre vie, toutes vos luttes, et il a pourvu une solution. J'ai lu tout à l'heure une partie de verset. Tous meurent en Adam, mais j'aimerais le compléter. Il est écrit, comme tous meurent en Adam, tous donc aussi revivront en Christ. Comme tout le monde entier souffre et meurt à cause de la souffrance d'Adam, tous ceux qui peuvent se confier en Christ, en son œuvre et en sa mort à la croix, je vais m'expliquer, pourront vivre éternellement et être délivrés éternellement de la souffrance et de la mort et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, dit la Bible. Jésus-Christ est cet homme que Dieu a envoyé dans le monde pour venir prendre sur lui la conséquence des péchés de notre premier père et de ceux que nous avons commis. Cet homme est venu dans le monde comme un petit enfant. Il est né dans une étable, parce que personne ne voulait de lui à l'autel. Il a été rejeté des hommes dès sa naissance. Il a grandi jusqu'à ses 30 ans où son ministère public s'est exercé. Pendant toute cette période, il n'a pas commis un seul péché. Sa naissance miraculeuse d'une femme uniquement était la garantie qu'il n'avait jamais été frappé par cette tâche dont nous avons parlé, cette conséquence initiale. Cet homme a parfaitement obéi là où nous avons tous parfaitement désobéi. Il a porté sur lui les mêmes tentations que nous, sans jamais commettre le moindre péché. Toutes les mêmes mauvaises pensées que nous avons eues, il aurait pu en être accablé, mais il les a chassées. Toutes les tentations que nous aurions pu expérimenter, il les a subies, mais il a parfaitement obéi là où nous avons parfaitement désobéi. Et parce qu'il était parfaitement obéissant, parce qu'il était parfait aux yeux de Dieu, il était le seul capable de pouvoir payer pour la faute d'un autre. Vous savez, si demain, par une grande bonté qui m'animerait, je décidais de mourir pour l'un d'entre vous et de me présenter devant Dieu en disant « Je meurs à la place de mamie qui est assise ici. » Dieu me dirait « Mais mon ami, tu meurs à cause de ton péché. Retire-toi de moi. Ma justice doit s'exercer. » Mais Jésus-Christ n'a jamais péché. C'est pourquoi quand il meurt, il peut porter la conséquence et la faute de ceux qui se confient en lui. C'est un acte d'amour que Dieu nous donne en la personne de Jésus. Jésus-Christ est venu dans le monde, il a été participant à nos souffrances, et dans un monde marqué par nos souffrances, quelle chose formidable que Dieu se soit incarné lui-même et qu'il ait lui aussi souffert comme nous avons souffert, jusqu'à souffrir à la croix à notre place. De sorte que si vous vous confiez en lui, vous pouvez avoir l'assurance que de manière judiciaire vos péchés vont être effacés devant Dieu. Mais mieux que ça, 3 jours après, nous dit la Bible, Jésus-Christ est ressuscité parce que les liens de la mort ne pouvaient pas le retenir. Il n'avait tout simplement jamais commis une seule faute. Il est donc ressuscité des morts. La mort n'avait aucun pouvoir sur lui. La mort est la conséquence du péché. Il est ressuscité corporellement. Il a vaincu la mort. Et si vous vous confiez en lui, bien sûr, vous quitterez cette tente et ce corps qui est le vôtre. Mais vous ressusciterez aussi. C'est la promesse que donne la Bible à quiconque se confie en lui. J'aimerais conclure maintenant. Dans cette salle, tout le monde souffre. Mais pour certains, cette souffrance s'arrêtera un jour. Et ils expérimenteront la joie parfaite et la plénitude du bonheur qu'un homme peut expérimenter et pour lequel il a finalement été créé. Car nous avons été créés comme étant des réceptacles de Dieu. Nous sommes comme un puzzle dans lequel il manque une pièce centrale. Et cette pièce centrale et infinie, c'est juste la personne de Dieu. Nous avons été créés pour ça. Nous sommes des réceptacles de Dieu. Pour ceux qui acceptent cette réalité et qui acceptent que Jésus-Christ est mort à leur place sur la croix, vous pourrez vivre éternellement et être délivré de la souffrance et de la mort d'une manière éternelle. Pour d'autres, la souffrance sera éternelle, parce que c'est ce que vous aurez toujours désiré. Dieu est-il injuste? Certainement pas. Dieu donne aux êtres humains exactement ce qu'ils ont toujours désiré. Si dans cette vie vous avez cherché après Dieu, il vous rencontrera et viendra vers vous. Mais si vous avez toujours cherché à l'éviter, alors il vous donnera exactement ce que vous avez toujours cherché, à savoir son absence définitive et éternelle. Il donne aux êtres humains exactement ce qu'ils ont envie d'avoir. Rien de plus, rien de moins. Où en es-tu? Veux-tu vivre cette paix et ce bonheur qui sont promis par Jésus-Christ à ceux qui se confient en lui? Veux-tu expérimenter la plénitude du bonheur, avoir toute l'âme essuyée de tes yeux et vivre éternellement cette vie délivrée de la souffrance dans laquelle tu pourras goûter enfin la vraie paix, la vraie joie, la plénitude de l'amour pour l'éternité? J'aimerais maintenant qu'on puisse tous incliner nos têtes et je vais conclure par la prière. Je laisserai ensuite la parole à Mike, mais j'aimerais simplement vous dire, si quelqu'un ce soir voudrait discuter un peu plus et voudrait échanger, nous sommes plusieurs ici à être vraiment disposés à discuter avec vous. Il y a Mike qui a parlé tout à l'heure, moi-même je me tiens à votre disposition, vous avez également Clément, je ne sais pas où il est passé, il n'est pas dans la salle, il est derrière, mais Clément reviendra tout à l'heure, on est plusieurs, il y a Yada aussi que vous voyez derrière la porte avec un verre, nous sommes tous à votre disposition si vous souhaitez échanger avec nous. Ne partez pas de cette salle sans avoir clairement fait la paix avec Dieu par le moyen de Jésus-Christ. Ne partez pas de cette salle sans avoir réglé dès à présent la question de la souffrance et de la mort, pas seulement dans cette vie. Je vous parle de l'éternité. Prions. Seigneur, merci pour cette conférence que nous avons pu avoir ce soir sur ce thème ô combien important de la souffrance et de la mort qui nous rappelle que tu existes, que ce monde n'est pas une fin en soi, qu'un jour il va être détruit, qu'il va laisser la place à quelque chose d'autre. Et nous savons que bien souvent nous nous focalisons sur les choses que nous voyons, là où toi tu diriges ce monde et tu l'inclines où il veut, où tu le veux. Mais nous savons, Seigneur, qu'à un moment donné, ces choses auront une fin, comme notre vie a une fin. Et je voudrais te prier pour que personne ne puisse sortir de cette salle ce soir sans avoir sérieusement examiné sa condition éternelle devant toi. Je voudrais te prier pour que personne ne puisse sortir de cette salle sans avoir une connaissance parfaite de qui tu es. Je voudrais te prier pour que personne ne puisse sortir de cette salle sans avoir fait la paix avec toi, sans avoir la question de ses péchés réglés, sans avoir eu l'assurance d'avoir ses péchés pardonnés, sans avoir cette porte ouverte dans l'éternité que personne ne peut fermer, sans avoir ce libre accès dans la plénitude du bonheur que tu promets à ceux qui se confient en toi. Je veux te prier pour ceux qui souffrent ici. Je veux te prier pour ceux qui sont dans la difficulté et dans l'affliction. Et je veux te demander de les garder. Je te remets ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.